première règle du bon usage de l'histoire simple et brutale, savoir que le passé est là.
1965, les massacres oubliés d'Indonésie.
Mon pays est très stratégique entre deux continents, entre deux océans. Stratégique économique, stratégique politique, stratégique militaire. Mon peuple est nombreux, mon peuple est très militant, mon peuple est très dynamique, mon peuple est uni, uni.
Le président Sukarno avait tenté le non-alignement, aussi insistait-il sur la situation géographique clé de son pays dans l'Asie du Sud-Est, sur sa population considérable, alors 100 millions d'habitants, sur les trésors que recelaient ses ressources naturelles. Les années passant, le président Sukarno avait appartenu à la première génération des pionniers des indépendances du tiers-monde. Sa parole opérait moins, ses caprices irritaient davantage. Le despote, apparemment éclairé, commençait à chanceler. Deux puissances montantes émergeaient particulièrement. L'armée, nombreuse, équipée, bien que divisée, et le Parti communiste avec sa myriade d'organisations, ses millions de membres. Il paraissait assez expérimenté pour parvenir au pouvoir, peut-être pacifiquement. Les États-Unis surveillaient la situation de près. Ils étaient alors de plus en plus engagés au Vietnam. Mais ce n'est pas eux qui allumèrent la mèche. Une tentative de décapitation de l'état-major qui tourne mal. Un général, Suharto, qui saisit la balle au bon. Une campagne de répression anticommuniste de l'armée de terre qui, de proche en proche, se transforme en un immense pogrom de 6 mois. Au moins 1,5 million de morts. Tout le monde dit libre pardonnera à Suharto, qui a rapidement écarté Sukarno. Sous prétexte d'ordre nouveau, les bourreaux seront assurés de l'impunité 30 ans durant. Et c'est seulement après qu'un nouveau cours s'est décidé en Indonésie en 1998 que la peur recule lentement et que la recherche commence prudemment.
La marche de l'histoire. France Inter. Jean Lebrun.
Avec Jean-Louis Margolin, bonjour.
Bonjour.
Votre dernier livre, co-signé avec Claude Markovitch, fait une grande place à l'Indonésie dans l'histoire connectée que vous tentez des Indes et de l'Europe. C'est un inédit chez Folio Gallimard. Immense pays qui mérite sa place dans votre livre, l'Indonésie. Immense pays que, selon vous, les Pays-Bas colonisateurs ont essayé d'unifier et où le président Sukarno, le premier leader de l'indépendance, essaye d'aimanter. Mais il est caractérisé par des forces émiettées, fortement polarisées. Alors, Sukarno, pendant un moment, il tente l'expérience parlementaire et démocratique. Et puis après, c'est de plus en plus la démocratie guidée.
Oui, alors il faut bien voir que Sukarno, comme beaucoup de gens de sa génération, ont été très largement influencés, je dis pas formés dans son cas, mais en tout cas influencés par l'occupation japonaise entre 1942 et 1945, et donc ont une pratique du pouvoir qui est pour le moins peu démocratique. En général, quand on rajoute un adjectif à démocratie, c'est qu'il n'y a plus trop de démocratie. Donc démocratie guidée ou démocratie dirigée, en fait, ça voulait dire plus d'élections, ça voulait dire un gouvernement, un parlement, enfin une assemblée consultative entièrement nommée par le pouvoir et en principe dirigée par Sukarno. Alors que, il faut le rappeler, pendant une décennie, après la fin de la guerre de libération entre 45 et 49, qui avait mis fin donc à 3 siècles de domination néerlandaise, l'Indonésie avait tenté une forme de démocratie parlementaire, de forme, disons, assez occidentale, en fait, avec un pluripartisme, avec des élections ouvertes et démocratiques, les seules qui ont eu lieu jusqu'à récemment, donc en 55 et 57, et puis une politique étrangère assez originale, puisqu'il faut rappeler que Bandung, le point haut du neutralisme...
de mettre au point le neutralisme, voilà, et le non-alignement, c'est chez Sukarno.
Ça se tient en Indonésie, à l'invitation de Sukarno.
Au moment de la démocratie guidée, au moment où vous dites que ces caprices de despotes fantasques commencent à irriter de plus en plus, il se rapproche de la Chine maoïste.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fuite en avant. Bon, le parti de Sukarno, c'est le parti national indonésien, et il a une ligne fortement nationaliste, étatiste, et à mesure même que les difficultés économiques s'accroissent, de plus en plus anti-occidentales. Il commence par nationaliser les biens des Néerlandais. Ensuite, on s'en prend aux biens importants. Il s'agit d'un pays évidemment très riche en matières premières, plantations, mines, etc. Il s'en prend aux biens des autres occidentaux, en particulier des Anglais et des Américains, qui évidemment n'en sont pas très ravis. Et dans ce cours, dans une période évidemment qui est celle de la guerre froide, et en plus de la concurrence en Extrême-Orient du communisme chinois et du communisme soviétique, à partir du début des années 60, bon, il est encouragé finalement dans une ligne de plus en plus anti-occidentale, de plus en plus nationaliste, et qui va l'amener, c'était quand même une décision unique depuis 1945, à quitter l'ONU. Début 1965, pour se rapprocher de la Chine. Il faut rappeler qu'à l'époque, le siège de la Chine à l'ONU est détenu par Taïwan et non pas par Pékin.
Le Parti communiste indonésien est très tenté, lui aussi, par la Chine. On va le voir tel qu'il est présenté par les dirigeants de l'ordre nouveau qui a succédé plus tard à Sukarno. C'est une scène que nous empruntons à un des deux films du grand diptyque documentaire de Joshua Oppenheimer, Les yeux du silence. Nous sommes ici dans une classe, il y a peu d'années, où l'instituteur explique le roman national tel qu'il s'est retissé en 1965, au moment où commence notre histoire, le 30 septembre 1965, à entendre le maître d'école.
Les communistes sont cruels. Les communistes ne croient pas en Dieu. Pour changer de système politique, ils ont enlevé 6 généraux de l'armée. Ils leur ont tailladé le visage avec des lames de rasoir. On leur a arraché les yeux. Ce n'est pas cruel ? Si. Les communistes étaient cruels. Donc, le gouvernement a dû les réprimer. Tu es l'enfant d'un communiste. Tu n'as pas le droit de travailler pour le gouvernement. Ton grand-père était communiste. Tu ne peux pas devenir soldat. Tu ne peux pas entrer dans la police. Si tu te rebelles contre l'État, tu vas en prison. Alors remercions les héros qui se sont battus pour faire de notre pays une démocratie.
Le 30 septembre 1965, je ne sais quelle a été la participation des communistes, vous nous donnerez votre point de vue, Jean-Louis Marguenin. Le mouvement qui enlève puis exécute une demi-douzaine de généraux de très haut rang, le mouvement dit du 30 septembre, c'est un mouvement, comme souvent dans les coups d'État, qui est d'abord fait d'officiers de rang intermédiaire.
Tout à fait, oui. Essentiellement des officiers de la garde présidentielle dirigée par un lieutenant-colonel, Un Tung, hein, des officiers donc qui ne sont pas parmi les plus connus, mais qui ont quand même des soutiens importants, disons un peu plus discrets, dans l'armée et aussi, bien sûr, dans le personnel politique. C'est eux qui sont en avant, mais il y a quand même un arrière. C'est pas un petit groupe flottant en l'air qui n'aurait agi que pour ses propres intérêts. Ils représentent quand même quelque chose d'essentiel dans le jeu politique.
Vous allez dire que ça n'a pas beaucoup d'importance, mais dans la mémoire et dans le récit, si, Jean-Louis Margolin, il reste dans la mémoire le récit des actes indignes que des femmes, sans doute, des sorcières ont commis sur les cadavres des généraux, parce qu'ils n'ont pas été seulement énucléés. Dans une classe de primaire, on est pudique.
Voilà.
Il y a toujours eu un parfum étrange dans les récits autour des événements de cette époque.
Oui, il y a plusieurs traces, disons, de l'intervention réelle ou supposée, dénoncée, disons, par ceux qui veulent s'en prendre à ceux qui ont fait tel ou tel acte, une intervention d'un certain irrationnel, de pratiques magiques. Là, en l'occurrence, il faut quand même apporter une sorte de démenti à ce qui a été dit précédemment par ce brave instituteur faisant répéter ses gamins dociles, c'est-à-dire que ces atrocités sur les généraux n'ont jamais pu être prouvés. On a toutes les raisons de penser qu'ils ont été exécutés qui n'est déjà pas mal, mais qu'il n'y a pas eu de forfait particulier à leur contre. Par contre, en ce qui concerne un certain nombre de communistes assassinés, là, il y a eu...
Oui, on y viendra tout à l'heure. Mais quelle est la responsabilité dans ce mouvement du 30 septembre des communistes? Dans un premier temps, Jean-Louis Marguelin, quand vous écriviez là-dessus, j'ai trouvé un article de vous de 1998, vous disiez non, il n'y a pas de responsabilité des communistes. Et puis vous avez évolué à la vue d'un certain nombre de documents.
Oui, c'est-à-dire que, bon, j'ai quand même lu un certain nombre de choses qui ont été publiées, révélées depuis. J'ai interviewé un certain nombre d'anciens cadres du Parti communiste de l'époque, très informé de la situation. Et effectivement, on peut quand même aujourd'hui affirmer de façon tout à fait claire qu'il y avait un appareil clandestin à l'intérieur même du Parti communiste, dirigé par nul autre que le secrétaire général du parti, Haïdite, sans forcément d'ailleurs que la masse des autres communistes en soit informée, et qui a tenté en fin de compte, non pas une prise du pouvoir directe, mais ce que dans le registre de ce qui s'est passé en Europe de l'Est, on appellerait un élément de la tactique de Salami, où il s'est agi de changer le rapport de force en éliminant les officiers supérieurs de l'armée de terre qui étaient les plus opposés au Parti communiste, les plus dangereux, et en essayant, en fait, sans remplacer immédiatement Sukarno, plutôt en le domestiquant progressivement par un conseil de la Révolution, où les communistes, bien sûr, formellement ne joueraient pas un rôle majeur, mais qu'ils tiendraient, finalement, par des sortes de ficelles, puisque ceux qui prennent le pouvoir, ce soi-disant conseil de la Révolution qui prend le pouvoir le 1er octobre 1965, bon, il n'y a aucune personnalité qui ait un projet politique.
De toute façon, ils
échouent. Derrière, il y a un projet politique.
Ils échouent.
Qui est un projet quand même de pouvoir.
Ils échouent, les membres de ce coup d'État mal foutu. Pour le monde occidental, ce qui se passe en Indonésie, à ce moment-là, s'apparente au pot au noir. 5 colonnes à la une à la télévision qui, d'habitude, réussit à donner un éclairage. Ben, cette fois, ne parvient à rien. Il est vrai que François Chalet, le journaliste dépêché sur place, n'interroge que les clients d'un hôtel au bord d'une piscine ou bien un galonné auto-risé, un galonné de l'armée de terre.
Ce rôle de police dévolu à l'armée, ses prises de position politique, autant de questions qu'il fallait poser au porte-parole le plus autorisé des militaires à Jakarta, le colonel Abu Jamal.
Mon colonel, on considère en Europe que l'armée manifesterait beaucoup d'insistance et de pression auprès du président pour obtenir de lui une répression anticommuniste beaucoup plus forte que lui, le président, ne le souhaiterait en réalité.
Je ne peux pas répondre directement à votre question. L'armée n'est pas seulement un élément du pouvoir de l'État, mais aussi un élément de la révolution. Nous avons donc, il est vrai, un rôle politique. Mais ça n'est pas nous qui le décidons. À propos de la lutte contre le PKI, il est clair que c'est le Parti communiste qui a tiré les ficelles du mouvement du 30 septembre. Pour cette raison, il est notre adversaire et c'est notre devoir d'indiquer au président qu'il faut pour le moins l'interdire, si possible le dissoudre. Nous ne faisons que transmettre les pressions venues du peuple pour anéantir le mouvement du 30 septembre.
Alors, vous nous avez déjà dit, Jean-Louis Marguelin, que le président Sukarno va être mis à l'écart. Il disparaîtra seulement en 1970, enfermé dans son palais. Ce colonel de l'armée de terre explique quand même assez clairement à François Chalet, nous avons pris le contrôle des choses, la répression des communistes va être organisée par l'armée de terre, avec ses jeeps qui permettent d'intervenir un peu partout, ses camions qui permettent d'évacuer les morts, s'il y en a. Mais le colonel a dit, c'est sous la pression du peuple. Et ça, vous insistez beaucoup là-dessus, Jean-Louis Marguelin, c'est aussi un pogrom populaire.
Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, on a une sorte d'action conjointe, à la fois des éléments les plus anticommunistes de l'armée, surtout de l'armée de terre, en particulier les paracommandos, mais quand on voit finalement la faiblesse relative des forces militaires qui s'occupent de la répression, parce que l'armée elle-même était divisée, il y avait des forces dans l'armée qui se retrouvaient d'ailleurs parfois à tuer ou dans les camps de détention, il y en avait d'autres qui sont restés neutres, à qui on a surtout demandé de pas intervenir parce qu'on avait peur qu'ils fassent preuve d'une grande mollesse, voire pire, vis-à-vis du PKI, vis-à-vis des communistes. Et en fait, ça n'est que quelques milliers d'hommes, les paracommandos, c'est à peu près 1000 hommes, hein, qui déclenchent cette répression gigantesque à l'échelle d'un pays continent. Et en fait, on ne peut comprendre la violence, l'étendue et surtout le succès de ces massacres. la raison pour laquelle le Parti communiste a semblé complètement désarmé, incapable de réagir, si on ne prend pas en compte le fait que, contre lui, il y avait finalement un océan de peur. En fait, toutes les forces non communistes ont participé à la répression, mais parmi ces forces non communistes, il y avait en particulier les partis religieux. En Indonésie, parti hindou, parti catholique, parti protestant et parti musulman.
Et parti musulman, puisque les musulmans, c'est 85% de la population.
Et donc, compte tenu de ce contexte, ce sont très largement, à peu près partout, sauf à Bali, où il y a une majorité hindoue, les milices des partis musulmans, du grand parti musulman Nahdlatul Ulama, son organisation de jeunes qui s'appelle Ansor, sa milice qui s'appelle Banser, qui ont non seulement... disons, pris les armes qu'offrait l'armée et suivi les consignes, dont il ne faut pas nier quand même qu'elles ont été envoyées par le général Suharto, consignes de répression et même de massacre, mais qui ont souvent été au-delà même de ces consignes. Les consignes étaient essentiellement l'élimination des cadres, des militants les plus actifs. Dans certains cas, les milices ont été bien au-delà, ont été jusqu'à massacrer des familles de simples sympathisants et tous ceux qui considéraient à tort ou à raison comme des athées, de mauvais fidèles, etc.
À ce sujet, pour illustrer votre propos, d'entendre un extrait de l'autre grand film du diptyque documentaire de Painemer qui s'appelle « L'acte de tuer ». Nous avons ici un homme qui est devenu éditeur de presse, il s'appelle Ibrahim Sink, et il explique que ce sont des milices populaires dont il était l'un des commandants, qui commence le travail, le CODIM, l'armée de terre, intervenant seulement après.
Tu as interrogé des communistes à l'époque ?
C'est lui qui s'occupait de l'enquête. Dès qu'il avait rassemblé toutes les informations nécessaires, il disait « coupable ». Ensuite, on arrivait, on prenait le type et on le tuait.
Vous vous souvenez des questions que vous posiez aux communistes que vous interrogiez ?
On posait des questions, c'est tout. On ajoutait ce qu'il fallait aux réponses. Le but était d'anéantir les communistes. Notre mission en tant que journal, c'était de répandre la haine des communistes dans la population. C'était comme ça.
Quels étaient les liens avec le CODIM ?
Avec qui ?
Le CODIM, l'armée de terre.
On n'avait aucun lien avec le CODIM. Les seuls rapports qu'on avait avec eux, c'était quand on attrapait des membres des jeunesses communistes et qu'on les battait. Quand ils étaient à moitié morts, on les donnait au CODIM, mais ils n'en voulaient pas. Ils disaient « jetez-les dans le fleuve ».
Et c'est ainsi que les fleuves et les canaux étaient parfois obstrués par les cadavres. Vous vouliez dire qu'il y avait d'autres types de participants encore, Jean-Louis Margolin ?
Oui, c'est ça. Je dis ça en particulier, par exemple, à ceux de vos auditeurs qui ont pu voir ces films passionnants et extrêmement révélateurs. Hein,
l'un des deux est en français en DVD et les deux en anglais dans un coffret DVD.
Qui sont parmi les très rares documents qui sont à notre disposition sur ces massacres. Et alors, ces films sont à la fois emblématiques, évidemment, d'une réalité générale en Indonésie, mais en même temps, ils sont très localisés dans une zone particulière, qui est la grande zone, d'ailleurs, des plantations coloniales, qui est le nord de Sumatra. Et dans cette zone, effectivement, sans doute à la différence de beaucoup d'autres, ceux qui ont tenu le couteau, puisque c'est essentiellement à l'arme blanche hein, que les communistes ont été massacrés, et évidemment dans des circonstances souvent assez sinistres, ça a été localement ce qu'on appelle, ceux qui s'intitulaient eux-mêmes les jeunesses du Pancasila, la doctrine officielle de l'Indonésie, plutôt des mouvements non religieux, là, et largement composés de petites frappes, de petits voyous locaux qui ont profité de l'occasion pour, évidemment, exercer leur talent et aussi, bien sûr, commencer, dans certains cas, des trajectoires d'enrichissement personnel aux dépens même de leurs victimes.
Il faut les comprendre, celui-ci qu'on va entendre dit « on se faisait de l'argent dans les files de cinéma qui diffusaient les films américains ». Voilà que les communistes, ils voulaient interdire les films de James Dean, ils voulaient aussi interdire les Beatles et le rock. Heureusement, le rock indonésien, on va en entendre un exemple tout à l'heure après le témoignage de ces petites frappes, il a survécu.
Pour oublier tout ça, je me suis mis à écouter de la bonne musique. Je dansais, ça me rendait heureux. Un peu d'alcool, un peu de marijuana. un peu d'extasie. Après ça, je planais. J'étais heureux.
Non seulement le rock indonésien a survécu, ça c'est un groupe féminin qui a été créé à ce moment-là ou à peu près, Dara Puspita.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Je peux dire qu'ici, il y a beaucoup de fantômes. Beaucoup de gens sont morts.
Et pas de mort naturelle.
Non, pas de mort naturelle. Avec Jean-Louis Margonin, nous parlons des immenses massacres de 1965 en Indonésie. Nous épargnerons aux auditeurs les descriptions précises qu'on peut trouver dans les interviews des films de Joshua Oppenheimer qu'on a déjà cité beaucoup. Le monde occidental, le monde dit libre, n'a pas voulu voir le bilan. Et pourtant, vous dites, vous, Jean-Louis Margonin, n'êtes pas suspecté de sympathie pour le communisme. Il y a deux grands criminels de guerre dans cette région, c'est Pol Pot et Suharto, oui. Ses sbires et ses milices.
À vrai dire, il y en a un peu plus que deux, mais enfin, bien sûr, ceux-là comptent parmi les grands, effectivement. Voilà, oui.
500 000 morts au bas mot.
Oui, c'est difficile de donner un chiffre. Je dirais plutôt 500 000 morts comme chiffre moyen. Je suis pas trop partisan globalement de l'inflation sans justification des monceaux de cadavres. Ça fait quand même c'est à peu près 1,5% de la population de l'Indonésie. Pour prendre une référence, ce sont des pertes trois fois supérieures, par exemple, sur les quelques quatre mois qu'a duré l'essentiel du massacre, à celles qu'avait subies pendant une période équivalente la France pendant la Grande Guerre. Donc on a quand même des tueries absolument effroyables, dont le monde occidental est parfaitement informé, puisqu'une des sources importantes, même essentielles, pour savoir ce qui s'est passé, ce sont les dépêches des différents consulats américains des différentes parties de l'Indonésie, même si les relations n'étaient pas très bonnes à l'époque entre les États-Unis et l'Indonésie. Il y avait quand même des observateurs un peu partout. Et qui nous ont laissé des rapports maintenant rendus publics sur le nombre de victimes.
Donc la CIA elle-même, dans ses rapports, paraît émue.
Ils peuvent pas. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, eux-mêmes, ce qu'ils voulaient, c'était surtout un changement de ligne de l'Indonésie. C'était essentiellement, finalement, l'élimination de Sukarno, autant que celle du Parti communiste. Eux-mêmes se seraient bien contentés, évidemment, d'une élimination des cadres dirigeants, d'une marginalisation du mouvement. Effectivement, quand ils constatent que ce sont souvent des familles entières qui sont exterminées, que les massacres tendent à se généraliser, y compris par exemple aux dépens des communautés chinoises. Dans certains cas, comme à Medan, c'est l'armée qui doit même tirer sur des émeutiers officiellement dans la ligne anticommuniste du pouvoir, mais qui cherche à en profiter, comme ça se passe souvent en Indonésie, pour aller piller et violer dans les quartiers chinois. Et tout ça, évidemment, ne contente pas particulièrement les Occidentaux, mais qui, globalement, considèrent les choses comme positives.
Le réalignement, au total, c'est un bilan positif. 30 ans d'ordre nouveau vont naître, marqués par une surveillance, pas seulement de l'histoire, une surveillance du voisinage, une surveillance de chacun à tout instant. Et ce sont les bourreaux ordinaires qui sont protégés par leur impunité, qui peuvent exercer le contrôle et qui souvent sont devenus riches. Dernier extrait du film Les yeux du silence d'Oppenheimer. Adi, le frère de Ramli, qui avait dans un premier temps échappé au massacre mais qui a été tué, mais lui a bénéficié d'une tombe, part à la recherche des responsables. Et il rencontre l'un d'entre eux, qui s'était pourtant attaqué à sa famille, mais qui l'accepte d'interroger.
Vous êtes un personnage public ici.
Oui.
Et vous êtes très riche.
Est-ce
que vous tirez votre richesse de ce que vous avez fait?
Je remercie Dieu d'avoir beaucoup d'amis riches qui m'ont aidé. Parce que nous avons mené un combat héroïque.
Donc, toute votre fortune vient de ce que vous avez fait.
Quand on fait le bien, on est récompensé.
Vous étiez le chef du commando AXI dans la région. Vous étiez donc responsable des massacres qui ont été perpétrés. C'est vous qui avez ordonné ces massacres.
Ce n'était pas vraiment moi.
En tant que chef du commando AXI, vous étiez responsable.
Il y avait beaucoup de groupes au sein du commando AXI.
Mais vous étiez le chef suprême.
Nous avions des commandants au-dessus de nous. Et nous étions soutenus par le gouvernement.
Quand il tournait, Oppenheimer avec son équipe venait avec deux voitures. Au cas où la première aurait été confisquée. Ça a été difficile, son tournage. Néanmoins, le film est reçu un peu en Indonésie. Enfin, il va pas être projeté dans les grands circuits commerciaux, mais il est un peu diffusé. Vous notez quand même que prudemment, on commence à pouvoir parler depuis la fin des années 1990.
Oui, tout à fait. L'Indonésie a quand même connu un changement de système politique important à partir de 1998. On est passé quand même d'une dictature personnelle, réduisant à néant toute espèce de vie parlementaire ou électorale, à un système beaucoup plus ouvert, y compris avec des forces de gauche et d'extrême gauche qui ne peuvent pas légalement s'intituler communistes, qui peuvent quand même s'exprimer dans une certaine mesure, qui reste d'ailleurs très globalement très faible. Et les films d'Oppenheimer, par exemple, ont été projetés de nombreuses fois dans des enceintes académiques, universitaires, dans associatifs, etc. Il y avait eu une tentative au début des années 2000 du président Abdourahmane Wahid, lui-même issu d'ailleurs de la principale force qui avait contribué y compris avec son père, a massacré les communistes en 65, et peut-être par une forme de repentir, il avait même suggéré d'autoriser à nouveau un parti communiste et de manifester des excuses. Mais sa présidence était éphémère, il a été invalidé officiellement pas pour cette raison-là, pour d'autres choses qu'on lui reprochait, mais on en est revenu à une espèce de consensus où finalement les héritiers des massacreurs, que ça soit le parti Golkar, qui reste un parti important, alors que c'était le parti de la dictature de Suharto, il détient par exemple la vice-présidence aujourd'hui, ou que ça soit les partis musulmans, qui sont très présents dans la vie politique, cela bloque très largement toute espèce de recherche, d'action, disons, allant un petit peu plus loin. Il y a eu
une
tentative.
Parce que le communisme est athée.
Oui. Voilà, c'est ça. Ce qu'on reproche fondamentalement aux communistes, et c'était déjà fait en 65, c'est d'abord et avant tout d'être athée, alors que les principes sacro-saints du pays, et puis bien sûr le rôle majeur des mouvements religieux, et en particulier musulmans, renvoient finalement l'athéisme dans la guerre.
Merci à vous Jean-Louis Margolin. Je rappelle que votre dernier livre avec Claude Markovitz est consacré à l'Indonésie avant cette période, Inde et Europe, histoire connectée, puis aussi à Singapour et à tout ce monde de l'Asie du Sud-Est. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, Franck Oliver, Frédéric Martin, Clara Garzon et Linka Negulesco pour la préparation, Enzo Labori à la technique. Chez vous, Mathieu Vidard, de l'histoire.
Oui, l'histoire des sens au XXe siècle. Et puis un autre sujet important à la une de la science, on va parler des ondes gravitationnelles. Grande découverte à venir.